Une vie, une œuvre, Thelonious Monk, 1917 Caroline du Nord, 1982 New Jersey. Thelonious Sphere Monk commence à jouer du piano dès l'âge de 5 ans. Sa sœur prend des leçons et lui en profite. Bientôt, son père abandonne la famille. À 11 ans, Thelonious accompagne sa mère Barbara à l'église baptiste et joue de l'orgue. À 13 ans, il se produit avec deux autres musiciens dans un bar local et se présente aux compétitions proposées par l'Apollo Theater. Il est pianiste comme il respire. Associé à la création du bebop, il affirme « C'est le genre de musique que je jouais, voilà tout ». À 30 ans, il enregistre sous son nom. En 1951, il est arrêté pour détention de stupéfiants. La protection de la baronne de Königswarter lui évite alors le bannissement qui aurait dû accompagner la confiscation de sa carte de travail. Il continue à jouer. Son comportement excentrique lui vaut le qualificatif d'ébéphrène et quelques passages en hôpital psychiatrique. Sa femme Nelly le protège autant qu'elle peut. Yvon Croisier signe « Une vie, une œuvre, Thelonious Monk ».
Bud Powell et lui sont en voiture, se font serrer par les flics. Bud est le seul à avoir quelque chose sur lui, mais il reste tétanisé, serrant la dose d'héroïne entre ses doigts. Monk la lui arrache et l'envoie valser par la fenêtre. Elle atterrit dans une flaque d'eau. Une torche fouille l'intérieur de la voiture. « Comment t'appelles-tu ?»« Monk. T'as tes papiers ?»« Doucement, fait le flic. Doucement. » Monk lui tend un portefeuille avec sa carte syndicale où la photo est tellement sombre que ça pourrait être n'importe qui.
Thelonious Sphere Monk.
C'est toi ?
Ouais. Ça en jette.
Et sans se presser, le flic se penche, ramasse la dose d'héroïne, déplie le papier, passe la pointe de la langue dessus.
C'est à toi ça ? C'est à toi ou à lui ?
Monk immobile, la pluie tombant autour de lui. Il renifle. Donc ça doit être à toi. C'est Monk qui s'est fait coffrer.
Monk n'a pas cafeté. Il n'a rien dit. Monk ne dit rien.
Thelonious Monk, la nique au silence, par Yvon Croisier.
Hi everybody. Very glad to be here today.
Monk est un homme de notes, mais un homme de peu de mots, avec des airs d'ours bourru, gourmand et solitaire, qui assène ses certitudes d'autodidacte à coups de griffes, autant de mélodies insolites et d'harmonies bizarres. Pour singulier qu'il est, Monk ne se situe pas en marge. Au contraire, il est au cœur du jazz. Fut-il souvent pris pour un excentrique ? On l'ordonna même grand prêtre du bebop, voire prophète, bien qu'il ne fût jamais que moine, comme son nom l'indique. Et sa musique, longtemps après, continue d'étonner, interpeller, sidérer. Elle séduit tout autant, telle une bizarrerie dans le paysage, une incongruité à laquelle on s'habitue peu à peu, et dont bientôt on ne peut plus se passer. Longtemps ignoré ou incompris avant d'être adulé, Monk joue aujourd'hui sur la même estrade que les plus grands musiciens du XXe siècle, ceux qui ont changé la donne. Il est certainement le plus énigmatique d'entre tous. Autour de minuit d'une vie vouée à la musique, à sa musique, il lâcha son piano pour une auto-réclusion propice à toutes les gloses. Monk quitta la scène sans saluer. Il tira le rideau lentement, un long fondu au noir de 6 années, en silence.
Thelonious Monk occupe une place à part dans le mouvement musical du XXe siècle.
Monk est un martien de la musique qui parle à toutes les oreilles avec une vigueur inimitable.
A man who lives his music, a man who thinks his music, and it's possible to say that he lives and thinks of little else. Ladies and gentlemen, Thelonious Monk.
Thank you. pour l'histoire de la musique, selon les points de vue, c'est ou un iconoclaste qui ne sait pas jouer du piano, ou un génie.
C'est le News Monk. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été foudroyé particulièrement par Le Crépuscule, Wisnelli, Ruby Maidir, Blue Monk, Panonica. Le mot parenthèse est important lorsque je pense à Monk, parce que ça met les choses de côté. Il n'existe que Monk lorsqu'on écoute. Il n'y a que lui et c'est un choc avec le reste banal.
Julien Delifiori, vous avez été une des voix du jazz sur France Inter pendant très longtemps. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, Ascenseur pour le jazz, dont l'exergue à lui seul justifie que je vienne à vous. J'ai découvert le jazz à 17 ans, écrivez-vous, Thelonious Monk et la lumière fut.
Comment dire, c'est une cassure totale. Puisque à l'époque, c'est vrai, c'était plutôt les Platters, Elvis, à la rigueur, je dis à la rigueur parce que il était très populaire et on aimait beaucoup dans les surbooms, les surpattes et tout de l'époque, Sidney Bechet. Mais bon, j'ai eu la chance de faire cette rencontre avec Monk. Ça me concernait, j'avais l'impression que si je devais montrer ma carte de visite, il y aurait marqué juste en dessous Julien Delifiori, M. Monk. Et Monk, il a écrit pour moi. C'est à moi qu'il s'adresse.
Thierry Delcourt, votre rencontre avec Monk.
Alors la rencontre avec Monk, c'est d'abord la rencontre avec sa musique. C'est d'écouter les différentes versions d'Épistrophe, de Round Midnight, de Crépuscule Wisnelli, et tout cet univers. La deuxième rencontre, c'est en tant que psychiatre et psychanalyste, c'est-à-dire qui était Monk et pourquoi ce silence de cet homme marmoréen avec une espèce de présence absente. Donc voilà, c'est un homme aux multiples facettes, mais celle qui l'a emporté, c'est la facette désastreuse du repli dans le silence et dans une forme de folie.
Round about midnight, Blue Monk, Ruby, my dear, Crepuscule with Nell Epistrophe, Panonica, Ask me now, Unwalked bug off my neck, Evidence, Mysterioso, Monk's Dream, Brilliant Corners, I mean you, Straight, No Chaser. Well, you needn't.
Again, the sound of jazz in Studio 58. Thelonious Monk has been playing and composing.
Alors la scène se passe au cinéma Rex d'Abidjan,
Jacques Ponzio,
en 65, et il y avait des documentaires avant le film à l'époque, et je vois une émission de CBS où on le voit jouer Blue Monk, et de ce jour-là, j'ai jamais arrêté. Pour moi, c'est une passion de plus de 50 ans.
Et au sens propre, y a-t-il eu rencontre ?
Alors ça, c'est le drame de ma vie. J'arrive en France, à Marseille, en septembre 69. Et j'apprends qu'il va passer au gymnase. Et je prends une place pour le cinquième poulailler tout en haut du gymnase. Et le concert en lui-même est un grand trou noir. Je n'ai jamais pu retrouver les souvenirs de ce concert, même sur le divan. Et j'y vois quelque chose comme, disons, le prix à payer pour maintenir le désir, la passion.
Ma rencontre personnelle avec Monk, c'était...
Laurent de Wilde.
C'est fait sur un malentendu. J'étais un jeune musicien apprenti de 13-14 ans. Et je me rappelle être allé à une académie musicale où il y avait un hôtel et un pianiste de jazz d'hôtel, c'est-à-dire veste à carreaux, chemise à rayures. Et à un moment, il me dit « Et Monk, tu connais ?» Et il rajoute « Et Monk, c'est du poulet ?» Alors je me dis « Ouais, il est en train de se foutre de ma gueule. » Et il joue un truc complètement arabiscoté. Et je dis « C'est quoi ?» Il dit « Bah, c'est Monk. » Ce qui m'a frappé d'abord chez lui, C'est son sens de l'humour. C'est extrêmement drôle. Il y a des mélodies qui me font vraiment éclater de rire. Tellement elles sont absolument improbables et puis qu'elles véhiculent plein de choses comme une espèce de torrent qu'on voit passer sous ses yeux avec des armoires normandes, des trous cosmiques, des cannes à pêche. Enfin, on voit absolument tout qui passe en une demi-seconde et on se dit mais c'est pas possible, c'est quoi? Et il y a quelqu'un qui vous dit bah ça c'est Monk.
On parle d'un gros ours un peu parfois empoté qui danse pendant les chorus de ses sidemen, mais c'est aussi un type très réservé, retenu.
Monk est un homme massif qui mesure plus d'1m80, il pèse presque 100 kilos à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui est complètement imprévisible.
La voix, l'élocution de Monk.
Il n'était pas spécialement enclin à faire effort d'articulation.
Thelonious Monk n'a pas la réputation d'être un garçon bavard et certainement pas d'être un bout en train en plus de ça. J'ai quand même essayé de lui poser quelques questions.
Interview pour la télévision française par Jacques Bernard S. 1969.
Je vais lui demander si, en cette année où on célèbre le 70e anniversaire de Duke Ellington, il ne pense pas qu'il doive quelque chose à l'influence de Duke Ellington.
Well, I mean, I've been influenced by all jazz musicians before me. All of them influenced me.
Ah, tous les musiciens de jazz avant Monk l'ont influencé. Ce que vous avez dit, Monk ne se veut pas se mouiller beaucoup.
Il avait toujours un couvre-chef. Il avait un chapeau, une toque, une chapka, un bonnet, des bérets. Enfin, il était toujours couvert. Mais il était souvent frileux. J'ai remarqué, on le voit souvent avec des manteaux en poils de chameau, je sais pas, et en même temps avoir cette impression de froid intérieur qui l'oblige réellement à se vêtir, comme en même temps se protéger, et du froid et du reste. Il y a vraiment cette impression de protection chez Monk.
Jacques Ponzio, vous êtes l'auteur avec François Postif de Blue Monk, un portrait de Thelonious paru en 1995 chez Actes Sud. Quelques repères biographiques, à commencer par sa date de naissance, qui longtemps a été une espèce d'énigme.
En fait, on affirmait qu'il était né en 1920. Or, François Postif et moi, nous avons trouvé son acte de naissance qui le fait naître le 10 octobre 1917. Et non pas à New York, mais à Rocky Mount, en Caroline du Nord. Alors, pourquoi ce 1920? Eh bien, peut-être parce que c'est autour de cette époque que ses parents ont émigré à New York. Sa ville, c'est New York.
De Monk, on ne sait à peu près rien, sauf son nom, une sorte de Lemoine français. Quant à ses prénoms, Thelonious, Sphere, ils sont intraduisibles. Est déjà partie de l'énigme. Ils ont intrigué, quelquefois fait se gausser. Ils sont le début d'une étrangeté, le signe de l'irréductible. Yves Buin, Thelonious Monk.
L'apprentissage de la musique.
On a dit beaucoup de choses, qu'il avait été à la Juilliard School, il n'a pas été à la Juilliard School. Par contre, il a beaucoup appris en regardant sa sœur prendre des leçons de piano, en accompagnant peu à peu sa mère à l'école du dimanche, c'est les services religieux chez les protestants, en tournant dans le sud des États-Unis avec une évangéliste qui prêchait et derrière un petit trio qui jouait de la musique, comme ça se fait dans ces conditions-là. Alors Monk a beaucoup pratiqué les concours de piano à l'Apollo où il gagnait tellement que finalement les patrons l'ont déclaré en quelque sorte hors concours. Comme ça laisse la place un peu aux autres.
Laurent de Wilde,
Vous êtes pianiste, compositeur, homme de radio et l'auteur d'une monographie sur Monk parue en 1996 chez Gallimard, dans laquelle vous faites une description du pianisme de Monk, pas très académique.
Il y a un non-académisme chez Monk qui irrite les gens qui ont passé 8 heures par jour, tous les jours de leur vie, à travailler leur piano. Sa technique à lui, il l'a mise entièrement au service de sa musique, qui est à la fois très percussive, très harmonique, imprévisible, et pour ça, il a développé des techniques pianistiques qui sont percussives, harmoniques et imprévisibles. Percussives, ça veut dire que ses doigts sont vraiment comme des baguettes. Il n'a pas du tout l'arrondi de la main de Bill Evans. Au contraire, lui, parfois, il peut mettre tout son corps sur une seule note ou très délicatement en effleurer une autre. Ça devient une note fantôme, ghost note. L'harmonie qui en découle est une harmonie de peu de notes, mais qui sont frappées de telle façon que les harmoniques contenues dans ces notes ressortent très fort. Et cette science-là est absolument inimitable. Et imprévisible, oui, il a travaillé des mouvements au piano, de croisement des doigts. Dans le film Straight Note Chaser, on le voit un petit peu jouer, on se rend compte de l'aspect complètement hétérogène de son jeu. Il est partout sur le clavier à la fois et d'une façon qui est absolument non conventionnelle.
Monk a donc les doigts à plat, parallèle aux touches du piano. Il s'en sert un petit peu comme des maillets. Et il a le buste très droit.
Très droit ou complètement en arrière même, comme dans un fauteuil relax, on dirait. Rarement ou jamais, en effet, en avant, comme peuvent l'être Glenn Gould ou Bill Evans, qui avaient le nez à 3 cm du clavier.
S'ajoute à cela une sorte de chorégraphie. Lorsque Monk sort son mouchoir, lorsque Monk boit un whisky, lorsque Monk fume une cigarette, tout en continuant à jouer du piano.
Oui, on a l'impression que Monk, tout en vivant sa musique, il vit sa vie. C'est-à-dire qu'il essuie un peu sa transpiration, bien que parfois il fasse très chaud et qu'il garde son manteau de fourrure. Il boit un whisky ou deux. Il démonte le pédalier du piano qui coince. Enfin, il a toute une vie, j'allais dire, au-delà de ce qui s'entend dans ce qui est enregistré. Il y a bien longtemps, les rédacteurs d'une revue suisse m'ont demandé de faire un article qui s'appelait « Monk Zehen », « Voir Monk ». Et j'avais quand même mis l'accent sur le fait que le voir, c'était l'entendre mieux.
Il fallait voir Monk pour bien entendre sa musique. L'instrument le plus important du groupe, quel qu'en fût le format, était son corps. Il ne jouait pas vraiment du piano. Son corps était son instrument. Et le piano n'était qu'un moyen de tirer la sonorité de ce corps. Si l'on avait tout occulté à l'exception de son corps, vous auriez cru qu'il jouait de la batterie, pieds moulinant la charleston, bras entrecroisés entre caisse claire et cymbale. Son corps emplit tous les vides de sa musique. Quand on ne le voit pas, il semble toujours qu'il manque quelqu'un. Mais quand on le voit, l'œil entend ce que l'oreille laisse passer. Geoff Dyer, Jazz Impro.
À votre avis, Martial Solal, Monk est-il un vrai pianiste?
Moi, j'admire Monk pour des qualités qui n'ont rien à voir avec l'instrument, même si je reconnais qu'il a un beau toucher. Mais son toucher vient et le résultat de ses défauts, c'est-à-dire son défaut qui consiste à jouer des notes pas toutes claires, reporte sur toute la qualité et la puissance de son attaque sur certaines notes qui, elles, le sont. Cela dit, je crois quand on parle de Monk, il faut toujours bien diviser la chose en deux. Monk est un compositeur, mais en tant qu'interprète de ses œuvres, je ne change pas d'idée. Monk n'est pas un pianiste.
Laurent de Wild, donc, si je vous pose la question qu'avait posée André Oder en 1982 à Martial Solal, Monk est-il un vrai pianiste?
Non seulement Monk est un vrai pianiste, parce qu'il nous apprend qu'il y a une autre façon de jouer le piano que celle qu'on enseigne au conservatoire, mais c'est un vrai musicien. Il met son instrument au service de sa musique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Quand Pierre Boulez fonde l'IRCAM, c'est cette philosophie-là qui va développer. C'est-à-dire les artistes ont des exigences
et en quelque sorte l'intendance suit. Et dans le cas de Monk, eh ben, il prend ce qu'on lui donne, c'est-à-dire un piano. Mais justement, il arrive à le tordre, à le mettre dans des situations intenables qui font qu'il sonne complètement différemment.
En 1949, Monk est au Birdland. Il profite d'un piano tout neuf, mais il continue à jouer avec son verre de whisky et sa cigarette. Et le patron du club sans cesse l'interrompt. Vous vous souvenez de la réponse de Monk?
Non, je ne me souviens pas de la réponse de Monk, imaginez-vous. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un rocker qui s'appelle Captain Beefheart raconte l'avoir vu. Il y avait un pot de fleurs sur le piano et Monk a renversé le pot de fleurs dans le piano tout neuf avec la flotte, les fleurs. Enfin, ça a été un cataclysme terrible.
Au Birdland, Monk avait pris le micro et déclaré « Je souhaiterais que la direction ne dérange pas l'artiste quand il travaille. »
J'aime beaucoup cette vieille histoire qui dit que il y en a à qui le piano donne du mal, mais Monk, lui, il donnait du mal au piano.
Ceci étant, là, je vais peut-être vous donner un scoop. Le beau-frère de Thelonious Junior, donc du fils de Monk, m'a envoyé, il y a déjà quelques années, un enregistrement de Monk jouant Chopin au piano. Il connaît, il sait, mais bien entendu qu'il a des influences, il était au courant de tout. Même plus tard, lorsqu'il a cessé de jouer en public, il continuait quand même à écouter la radio. La meilleure preuve, c'est qu'un jour, que dans l'émission de WKCR, on dit qu'il jouait des fausses notes, wrong notes, il a téléphoné au réalisateur de l'émission pour faire dire « le piano n'a pas de fausses notes ». Celui qui en joue peut faire les mauvaises fausses notes, mais lui, il faisait les bonnes.
Une fausse note sur un piano, ce serait quand un doigt essaie de passer entre deux touches.
Il s'amusait, Thelonious Monk, sur son piano.
La leçon de jazz, par Antoine Hervé.
À frapper des clusters, c'est-à-dire des agrégats de notes, beaucoup de notes à la fois. Et à la fin, il en retirait certaines. En fait, il invente des techniques basées sur les résonances. Et en outant des notes, il obtient un langage totalement personnel. Et il rajoute des dissonances dont personne ne veut. Pourquoi ? Parce que ça agresse un petit peu l'oreille, les choses comme ça. Septième majeur, demi-ton, neuvième mineur. Des intervalles qui créent des résonances désagréables à l'oreille, mais chez Monk, ça va être la base du développement de tout son langage harmonique. Et maintenant, dans le monde entier, les amateurs de jazz reconnaissent instantanément ça, c'est un accord de Thelonious Monk. C'est typiquement lui. Avec une petite arpège en plus, on ne peut pas se tromper.
Laurent de Wilde, la naissance artistique de Monk a lieu en 1941 à New York, au Minton's Playhouse. C'est le creuset du bebop.
Nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique a besoin de soldats noirs pour aller défendre la démocratie et, je dirais, baisse la barrière qui existait entre les noirs et les blancs, ce qu'on appelle la ségrégation. Du coup, beaucoup de libres pensées vont pouvoir s'exprimer. Cette nouvelle génération qu'on appelle les boppers sont des gens qui ne veulent pas ressembler à leurs aînés. Donc, elle va vouloir exclure de la scène du Minton's, les musiciens de l'ancienne génération. Et comment on fait ça? En inventant une musique, en fait, qui est injouable si on n'est pas dans le coup, quoi. C'est-à-dire une musique avec des tempos très rapides et des accords qui passent très très vite.
Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'avoir dans nos studios Thelonious Monk, qui est appelé le grand prêtre du bebop, car il est le principal créateur, avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie, de ce mouvement musical qui a révolutionné l'histoire du jazz.
Quand on écoute la musique de Monk, on a du mal à croire que c'est du bebop.
parce que c'est quelque chose de tellement singulier qu'on ne le rattache pas à la fluidité merveilleuse de Charlie Parker. Et donc, il est à la fois au centre de cette révolution harmonique, parce que tout le monde est autour du piano de Monk et lui dit « Ah mais comment tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça ?» Et Monk, non seulement il ouvre les avenues que vont utiliser les boppers, mais en plus, il ouvre toutes sortes de rues transversales qui sont complètement négligées par le bebop.
En tout cas, en France, l'accueil a été plus ou moins mitigé.
André Oder et Henri Renaud sur France Musique, 1982.
Monk dérangé. Et puis, le public n'a pas fait un triomphe à ces disques. Et voici qu'au mois de janvier 1948 paraît le référendum annuel de Métronome. Et alors Dizzy Gillespie arrive premier chez les trompettistes, Charlie Parker arrive premier chez les saxophonistes alto, et Monk, il arrive.
Monk arrive en 35e position, je crois.
31e
position.
31e, ce qui veut dire qu'il existe quand même un petit peu dans la conscience du public.
À partir, je dirais, de la fin des années 50, Monk est reconnu, à partir du moment où il prend John Coltrane dans son orchestre, comme une personnalité singulière de la musique. Et pendant une décennie, je dirais de 57 à 67, Monk est vraiment quelqu'un qui tourne partout tout le temps et qui est un dieu vivant. Et les gens scandent Monk, 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 jusqu'à ce qu'il arrive. C'est quelqu'un qui a vraiment imposé son style. Mais je pense que sa musique était tellement forte, tellement dense, qu'elle a mis du temps à trouver son public. Il a des morceaux complètement farfelus, il a des morceaux dont la mélodie fait trois notes, il a des ballades absolument splendides, il a des choses qui sont très très conservatrices, il y a d'autres choses qui sont d'une modernité impossible, il y a des morceaux qui sont très faciles à jouer, il y a des morceaux qui sont très difficiles à jouer. C'est un compositeur qui a laissé derrière lui à la fois une œuvre et les interprétations de ses œuvres. Dans la mesure où on ne peut jamais imiter la façon dont il joue ses morceaux, il laisse avec ses morceaux un point d'interrogation.
Le silence pose également question. Le silence dans l'existence de Monk, mais aussi dans sa musique. On a dit de lui qu'il était un sculpteur de silence. Qu'est-ce qu'on entend par là, selon vous, Laurent de Wilde?
Je pense qu'il devait être dans sa vie assailli par le silence. Par son silence, il avait des phases mutiques, n'est-ce pas, où il grinçait des dents, il disait rien, il restait debout pendant 36 heures de suite à arpenter une pièce. Je pense que le silence prenait possession de lui. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'il y a un silence de Monk qui a fait couler beaucoup d'encre, Noël 54, enregistrement pour Prestige avec sous le nom de Miles Davis, où justement Miles lui demande de pas l'accompagner. Il joue The Man I Love et puis Monk commence à improviser et puis s'arrête d'improviser, il tombe dans le silence.
Le fait que Monk joue presque pas derrière Miles ne me choque absolument pas. Ce qui est un peu plus curieux, c'est comment il commence, lui, son chorus, comme si il n'y allait pas vraiment. Et ça n'a pas manqué. Miles rappelle Monk à l'ordre par un coup de trompette. Enfin, il lui dit, mais tu vas te mettre à jouer, oui ou non? On est en session d'enregistrement. On a 3 minutes. On n'a pas 2 heures devant soi.
Il faut préciser que pendant à peu près une dizaine de mesures, Monk s'est littéralement arrêté de jouer alors qu'il est censé produire un chorus.
Monk est censé produire un chorus, mais après tout, il est censé d'abord jouer ce qu'il a envie de jouer. Il n'est pas au charbon. Justement, c'est sa façon d'être. Et en cela, je retrouve aussi une analogie, si vous voulez, qu'on peut faire avec sa façon de parler. Il répond, quand il a envie de répondre, il grommelle, il murmure, il n'est pas tenu comme on peut l'être parfois, comme aujourd'hui, dans une interview.
Pas sur France Culture.
Et alors, personne n'a d'explication réellement valide pour ce qu'on a appelé humoristiquement le trou de Monk. Et je trouve pas ça du tout étonnant qu'un silence de Monk puisse faire autant d'interrogations. Parce que son silence, il arrive à un moment, toujours dans sa musique, à un moment aussi impromptu que si, le matin, on sort du lit, on va aux toilettes, et sur le chemin, là, dans le couloir, et ben, tout d'un coup, il y a un précipice de 20 mètres avec au fond des crocodiles, quoi. Alors oui, c'est un silence qui fait peur. Tout d'un coup, waouh, il y a un trou. C'est des bombes de silence.
Peu d'Isère, Monk ne s'est jamais expliqué. Il n'a jamais commenté sa musique, il disait même que parler de la musique, c'est comme danser sur l'architecture. Il en disait peu pour laisser penser plus, une sorte de comprenne qui peut.
Il avait cette attitude, même par rapport aux musiciens, c'est-à-dire qu'il avait des partitions de ses morceaux. Mais quand un nouveau musicien joignait l'orchestre, jamais il lui donnait les partitions. Et pour lui, je pense que c'est un manifeste, c'est-à-dire sa musique parle d'elle-même.
Jacques Ponzio, vers la fin des années 50, Monk manifeste des signes avant-coureurs de troubles du comportement.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Enfin oui, bien sûr, il y a des troubles du comportement au sens où on observe qu'il n'a pas le comportement de tout le monde. Alors, d'abord, on peut se demander si on est obligé d'avoir le comportement de tout le monde. Vous aurez compris que ma réponse est non. Après, évidemment, la question suppose déjà la réponse. On suppose que Monk est pas normal. C'est ce qui se dit. Monk est fou. Laurent Deville l'a écrit.
Oui, fou. Monk est fou. Il a des crises. Il est malade, il le sait, et il sent, quand elle monte, la vague qui l'emportera très loin du monde des autres hommes. D'aimable original, il devient subitement quelqu'un de très inquiétant. Un voile sombre semble s'élever des profondeurs de son esprit et plier tout son être à son emprise. En quelques heures, il coupe un à un tous les ponts qui le rattachent encore au monde réel, s'isolant malgré lui dans une forteresse dont les murs s'épaississent de minute en minute. Fou. Monk est fou.
Moi, j'ai une position beaucoup plus, je pense, nuancée, même si certains épisodes de son existence l'ont montré ayant des comportements qu'on observe chez les fous.
En tout cas, Monk semble inadapté à l'existence humaine.
Alors ça, je me demande si l'existence humaine dont on parle, dont vous parlez, Yvon, n'est pas un excès d'adaptation à quelque chose socialement acceptable, dont lui, justement, serait presque miraculeusement immunisé. Par exemple, on dit qu'il pouvait rester 2 jours ou 3 jours sans dormir, puis ensuite qu'il dormait n'importe où. Mais il dormait quand il avait sommeil, il mangeait quand il avait faim, il fumait, il fumait tout le temps, il buvait, tout le temps aussi, voilà. De plus, il ne faut peut-être pas sous-estimer l'influence d'un nombre très important de substances toxiques, excitants, calmants dans tous les sens. C'était l'époque où les amphétamines étaient en vente libre, où le LSD commençait. On a le témoignage d'un petit malin qui un jour en a versé dans la bière que Monk buvait. Je crois que ça n'a rien d'étonnant qu'à certains moments, il ait pété un câble, enfin c'est pas très joli, enfin qu'il ait un comportement, disons, inapproprié. Je crois que ça relativise énormément ce qu'on peut dire quant à l'état psychologique disons, de base de Monk. Il était probablement pas plus fou qu'un autre.
Alors oui, Thelonious Monk n'était pas fou.
Thierry Delcourt, psychiatre, psychanalyste.
Au sens où, on le sait bien, quand il a parlé avec des journalistes, il y a quand même des entretiens mémorables où il a pu les scotcher, pour dire les choses claires, et effectivement d'être très lucide et en même temps très provocateur parfois. Hein. Il n'est pas absent au monde, il n'est pas dans un délire au sens où il aurait perdu tout repère dans la réalité. Mais il a une folie qui est celle d'aller trop loin, de dépasser une limite. À la fois dans sa musique, avec les produits, avec l'alcool, avec la cocaïne, et ensuite avec les neuroleptiques.
Dizzy Gillespie disait que Monk n'était pas fou du tout, et que c'était juste un genre qui se donnait. Et je pense qu'ils étaient tous assez fous à l'époque. Bon, il faut savoir que le père de Thelonious Monk est mort en asile psychiatrique, et il y a indéfiniment des symptômes qui progressivement se manifestent. Et ça apparaît, je dirais, dans les années 50, à la mort de sa mère.
On est au début de Straight No Chaser, du film, où effectivement, Thelonious Monk tourne comme un derviche, aussi comme un ours qui est entièrement pris dans sa musique, mais qui peut être là, présent, et d'un seul coup rentrer dans la musique avec les autres, et puis s'absenter complètement, comme ce fameux grand bleu, là, quand cet homme part dans l'océan et s'enfonce dans l'océan. Sauf que lui revient à chaque fois, Monk, il revient jusqu'au moment où il s'enfonce vraiment dans l'océan, c'est-à-dire au moment où, cette espèce... Je l'ai souvent comparé à Glenn Gould, dans cette façon de rentrer dans un univers très profond et en même temps très communicatif avec nous, et en même temps il est tellement loin, quand il est en train de jouer. Et là il tourne...
Si un autre faisait cela, on lui passerait la camisole, dit-il face caméra. Oh, c'est Thelonious Monk. Il est dingue. Thierry Delcourt, je vous demande de vous concentrer sur son regard.
Est-ce que Monk a un regard? Est-ce qu'il regarde les autres plutôt? Je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas le regard qui compte de Monk. C'est son corps entier qui parle, c'est pas son regard, dans cette espèce de mouvement lourd, parce que c'est un mouvement lourd et un mouvement tournoyant. Et c'est un peu comme ces silences. On a souvent l'impression que le silence est du silence. Mais le silence de Monk, c'est un silence très dense dans lequel il y a, qui est habité par une espèce de rythme comme ça, tac, 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 tac. Et on est dans quelque chose qui est vraiment d'un rythme frénétique, d'un rythme intérieur frénétique.
Dans la séquence qu'on vient de voir, Monk tournoie sur lui-même, les bras à l'horizontale, et le public rit.
Alors le public rit parce que le public est désorienté et peut-être même angoissé face à Monk. Angoissé parce que Monk, il est là avec dans sa présence presque monstrueuse. Hein, voilà, parce qu'il est là sans être là et en même temps, sa musique va complètement déranger. Elle nous fait perdre nos repères. Le silence, ça a un effet sur le public de désarroi. Et donc le rire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas très à l'aise? On rit, de la même façon que face à un fou, on va rire, on va se moquer.
Nous sommes chez vous à Marseille, Jacques Ponzio, à Marseille où Monk a joué, à l'Alcazar, et vous avez recueilli le témoignage d'un spectateur.
André Lucioni, à l'époque, il était jeune médecin en 61, et il fait venir Monk donc en avril 61 à l'Alcazar. À ce moment-là, Monk se serait livré à une chasse à des rats qu'il voyait. Je dois vous dire que pour être Marseillais, ceci n'a rien d'extraordinaire parce que des rats, c'est une ville portuaire. Et il y en a tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on les croise sur tous les trottoirs. Ça veut dire qu'il peut y en avoir. Donc,
Monk entre enfin en scène à l'Alcazar. Un demi-litre de cognac et une bouteille de Largactyl dans le coffre. Extrait du compte-rendu du spectateur Lucioni
tel que reproduit dans le livre de Jacques Ponzio. D'un pas de conquérant, il s'avance, toise avec morgue un public stupéfait et repart en coulisses aussi brusquement qu'il en était venu. Monk revient sur scène, sort côté cour, réapparaît côté jardin, tourne soupçonneux autour de ses musiciens, effectue un pas de danse, saisit un chiffon oublié sur le piano et astique consciencieusement l'instrument, jette enfin le chiffon dans la fosse d'orchestre et disparaît à nouveau. En coulisses, Monk abandonne son manteau d'astrakhan, revient sur scène en titubant un peu, se dandine sur ses pattes comme un gros ours de foire et s'installe enfin devant son piano. Monk entame alors seul les premières mesures d'un body and soul totalement déchirant et soudain pousse un cri, ferme rageusement le couvercle et se sauve à nouveau hors de la scène. Monk revient, agité et trémulant, couvert de sueur, nouveau body and soul. Monk se lève, le visage effrayé, et donne des coups de pied dans le vide à d'imaginaires bestioles. « Chassez ces maudits rats, sinon je m'en vais » hurle-t-il. On l'assure qu'ils se sont enfuis et il se rassied. Et c'est le miracle. Le cauchemar était terminé.
Je crois que Monk n'est pas le génie qu'on a pu décrire, n'est pas le fou que certains ont dit, n'est pas le drogué que certains ont dit. Il était un peu tout ça, mais c'était surtout un homme de son temps et de son milieu.
Et c'est chez cet homme qui est fragile, finalement, ça va apparaître comme une masse menaçante pour les autres. Il va faire peur et à ce moment-là, on va déjà l'emprisonner, le mettre en garde à vue et on va l'interner à plusieurs reprises. On a fait à son sujet le diagnostic de schizophrénie. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a une histoire qui fait qu'il y a une souffrance, mais qu'il avait trouvé une issue fascinante et positive dans la musique. Par contre, tout ce qu'il a pu consommer, y compris des produits prescrits par les psychiatres, ont eu un effet redoutable sur ses neurones, sur sa physiologie, sur les 6 dernières années de sa vie, quoi. Parce que s'il ressort de l'asile en disant « je ne suis pas fou », il ressort quand même avec des doses 10 fois supérieures à celles de ceux qui sont fous.
Bon, il était classé à l'époque dans les hébéphrènes, c'est-à-dire quelqu'un qui était hébété toute la journée quand il était enfermé en lui-même. Il a passé plusieurs fois en hôpital psychiatrique, sans que ça soit accompagné d'autre chose que un traitement palliatif et un calmant pour lui éviter d'être violent, ce qu'il n'était absolument jamais. C'était son silence qui était violent.
Thelonious Monk Jr.
On a tendance à fuir ces choses, et ça, Nelly ne l'a pas permis. J'avoue qu'étant gosse, j'avais envie de m'enfuir. J'y comprenais rien. C'est terrible de regarder son père dans les yeux en sachant qu'il ne vous reconnaît pas. Mais ma mère m'a clairement fait comprendre que c'était notre responsabilité de veiller sur lui, comme il veillait sur nous quand il le pouvait.
Monk fait peur. On le gave de neuroleptiques, on lui fait subir des électrochocs, et puis finalement, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas dangereux, on le relâche, on le redonne à son épouse, qui est sans doute son seul calmant.
C'est un aveu d'impuissance, n'est-ce pas, de la psychiatrie moderne. On avait même suggéré une lobotomie, heureusement. Monk a évité cette abomination et sa femme Nelly, qui a été toujours à ses côtés et son, littéralement son garde-fou, à la fin de sa vie, c'est un poids qui est trop difficile et elle fait équipe avec la baronne Panonica de Königswarter. C'est chez elle, la baronne, que Monk va finir sa vie, avec bien entendu l'assentiment et la reconnaissance de Nelly, qui a quand même passé toute sa vie à essayer de parer aux catastrophes les plus graves.
On dit parfois de certains hommes que ce sont des hommes à femmes. S'agissant de Monk, je dirais presque que c'est un homme à mère.
En deux mots.
Voilà. Il a... besoin de ce que des femmes, alors d'abord sa mère, ensuite Nelly, et puis bien sûr Panonika de Königswarter, s'occupent de tout le reste. Et il semble que Nika...
Nika, c'est donc Panonika de Königswarter, née Rothschild.
Alors bien sûr, je suis un peu familier avec Panonika de Königswarter, qui en effet est une descendante Rothschild, mais elle s'est aperçue assez vite, semble-t-il, de la pauvreté de cette vie, et elle a créé un mythe, elle a même créé deux, puisque Charlie Parker est mort chez elle au Stanhope Hotel en 55, que Monk est mort chez elle en 82, qu'une quantité de musiciens ont trouvé refuge chez elle au moment les plus difficiles. Donc elle a toujours été là, c'était leur marraine, on pourrait dire.
J'aimerais vous jouer un petit morceau que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Panonika. Ça s'appelle Panonika,
this beautiful lady here.
En hommage à cette très belle dame.
I think her father gave her that name after a butterfly.
Je crois que c'est son père qui l'a nommée ainsi d'après un papillon qu'il essayait d'attraper. Je crois pas qu'il l'ait pris.
À la fin des années 60, le rock prend le pas sur le jazz et Monk se refuse la moindre concession et se laisse un petit peu pousser de côté. À partir de 71, il participe avec Dizzy Gillespie, avec Art Blakey, à un groupe qui s'appelle les Giants of Jazz et qui s'occupe un peu de ramasser les derniers dollars. On le voit assis derrière son piano et on a l'impression que le cœur n'y est pas. D'ailleurs, Monk apparaît tête nue. Il ne veut pas porter le chapeau.
Il ne veut pas porter le chapeau et il ne veut pas porter le couvre-chef parce qu'il n'est pas le chef dans cet orchestre. Qui, bien entendu, connaît un succès phénoménal, mais qui, effectivement, musicalement, vaut pas tripette, quoi. Et pour Monk, je pense que ça a dû être quelque chose de très humiliant. Monk était quelqu'un qui a toute sa vie essayé de gagner de l'argent juste pour garder la tête hors de l'eau et faire vivre correctement ses enfants et échapper au carcan que lui impose la société du noir qui doit être pauvre et qui n'a finalement pas les mêmes droits que les blancs. Donc moi je vois ce dernier effort comme le courage de quelqu'un, Monk, qui est prêt à accepter une façon de faire rentrer un peu d'argent avant qu'il soit trop tard, parce qu'en même temps, il est clair que la tendance est à la descente vers le noir. Et il faut dire que la tournée de cet orchestre occasionne l'enregistrement en Angleterre d'une session d'une après-midi qui donnera 3 disques sous le label Black Lion, le véritable testament musical de Monk. L'enregistrement de lui que je trouve le plus inquiétant. Il n'y a plus que les os, il n'y a plus la chair, il n'y a plus tout ce qui fait joli. C'est vraiment son disque le plus monkien. Et c'est celui du bout de la piste.
Maintenant, on peut voir ça comme un testament, un chant du cygne. Mais s'il avait continué à jouer 10 ans, on ne l'aurait pas vu comme ça. Question de perspective, j'imagine.
Jacques Ponzio, vous avez tendance à démystifier Monk?
Démystifier suppose le mythe. Je vis pas tellement avec le mythe. Je reconnais chez Monk un être humain complexe, très déterminé à exister dans sa vie de musicien et qui arrête le jour où il ne peut plus assumer cette vie de musicien. Le reste, il y a énormément de littérature.
C'est pour tordre le cou à ces vérités trop faciles que vous avez fait paraître, Jacques Ponzio, un abécédaire Monk où vous avez compilé les bons mots de Monk. Vous citez une interview, ça se passe à Mexico, sans doute au début des années 70. La première question, c'est: y a-t-il autre chose qui vous intéresse que la musique? Je vous laisse le rôle de Thelonious Monk.
Monk, la vie en général.
Et que faites-vous pour ça?
Je continue à respirer.
D'après vous, quel est le but de la vie ?
Mourir.
Mais entre la naissance et la mort, il y a beaucoup à faire.
Vous avez une question, je vous ai donné la réponse. Et il tourne les talons.
Panonica de Königswarter.
On rentrait de New York. C'était la première année qu'il vivait ici, en 1972. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis très gravement malade ». C'est la seule chose que Thelonious ait jamais dite sur le sujet.
Monk se retire peu à peu et puis se replie littéralement sur lui-même, chez la baronne. Comment est-ce que vous imaginez les dernières années de sa vie, seulement entourée de silence et de chats ?
Le pianiste Barry Harris habitait chez la baronne, a travaillé son piano, et il savait que Monk était dans une pièce à côté. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est que, non, il se passait rien, on n'entendait rien. Monk, très très rarement, il y avait un piano dans sa chambre, mais très très rarement, il jouait trois notes et puis s'arrêtait.
L'absence, le silence. La fermeture de Monk n'est pas un problème, mais un véritable mystère. Comme sa musique, Monk est devenu clos, circulairement clos. Monk est devenu un thème de Monk. C'est-à-dire que pendant 6 ans à New York, dans la villa de la baronne, béant sur la baie d'Hudson, à quelques mètres d'un Steinway demi-queue, parmi les 250 chats qui bondissent partout, Monk attendait d'être assez fermé pour mourir. C'était un immense nègre, colosse et boréal, couché dans le lit d'une petite chambre, en pyjama bleu royal, fixant le plafond, un bison noir qui restait là sans rien faire, sans rien dire, refusant de bouger. Au moindre mouvement, la baronne enregistrait l'exceptionnel événement. Il a consenti à sortir de sa chambre. Il est allé dans le jardin. Il a mis sa robe de chambre. Il a jeté un coup d'œil au piano. Il a fait un grognement qui ressemblait à un mot. Marc-Édouard Nab, au régal des vermines.
Thierry Delcourt, vous avez publié un ouvrage intitulé « Au risque de l'art » où il est question de la création en tant que condition d'existence et vous avez donné une conférence intitulée « L'exigence d'un créateur au risque de la folie ».
Thelonious Monk est donc pour vous un cas d'étude.
Il est un cas d'étude. Parce qu'on a ce point d'interrogation sur qu'est-ce qui s'est passé à partir de 72 et cette dégradation progressive jusqu'à arriver dans cet état qu'on appelle de catatonie, c'est-à-dire un repli immobile sur lui-même qu'il avait déjà avant. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure marmoréen, il avait cette dimension-là. C'est-à-dire que ce qui pouvait faire peur aux autres, c'est qu'il était dans une présence figée parce qu'il était pris et habité par autre chose. Et progressivement, cette présence figée est devenue un figement complet de son être. Il était complètement emmuré.
On peut expliquer cette retraite par la fatigue, par l'usure, par la maladie, par un désir d'ultime préservation, un besoin d'apaisement, aussi peut-être une perte d'inspiration, un renoncement parce que on arrive près du point final.
Je pense que s'il s'est arrêté de jouer, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Pour moi, Monk fait partie de ces gens comme Mozart, qui était en prise directe avec quelque chose de tellement puissant musicalement, d'un flow créatif. Je pense qu'il était quasiment épileptique de musique et que ça devait pas être quelque chose de sympa du tout à vivre, à mon avis. Et s'il s'est arrêté à la fin, c'est tout simplement parce qu'il était épuisé.
Monk s'amusait à fermer son poing et il avait gravé comme un tatouage sur chacun des quatre doigts son nom, Monk. Et puis, il tournait la main et le mot Monk devenait No, donc le savoir. Est-ce que Monk a cru qu'il savait pour s'arrêter ?
Monk a cru qu'il savait, certainement. Mais je ne ferai pas le lien de causalité à pour s'arrêter. L'hypothèse qui serait séduisante, effectivement, presque une hypothèse romantique, c'est de dire « j'ai tout dit, je me tais ». Moi, je ne crois pas trop à ça. Je pense qu'il avait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais qu'à un moment donné, tout ce qu'il a vécu, subi, n'oublions pas la question de l'absence de son père, la disparition quasi à l'âge de 4-5 ans de son père qui s'absente. Et ce qu'on a su ensuite, c'est que son père habitait pas très loin de chez lui et qu'il est mort sans qu'il le sache. Et voilà. Et à un moment donné, quand il rentre dans le silence, je crois que c'est plutôt une grande souffrance qui l'a amené dans ce silence-là.
Le célèbre pianiste de jazz Thelonious Monk, victime d'une congestion cérébrale hier soir, Monk est dans le coma dans un hôpital du New Jersey.
Voilà, il a tenu quelques jours, quelques semaines, et puis il a tiré sa révérence.
La mort d'un géant du jazz, le pianiste noir américain Thelonious Monk a succombé à une crise cardiaque. Thelonious Monk, l'un des inventeurs du pop, s'était rendu célèbre dans les années 50 avec une fatale condition, grande midnight. Son nom est indissociable de ceux de son.
Thelonious Monk meurt le 17 février 1982 et il est enterré dans le cimetière de Ferncliff à Hartsdale, dans l'État de New York. Donc je me suis rendu à ce cimetière et je cherchais bien entendu la tombe de Thelonious Monk. J'ai trouvé la ville, j'ai trouvé le cimetière, mais je n'ai jamais pu trouver la tombe de Monk pour la raison qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de plaque. Depuis, la famille Monk s'est occupée de cela et il y a une plaque. Donc, justice lui est rendue, si on peut dire que cette plaque lui rend justice. Bien entendu, rien ne lui rendra justice, sauf ce qu'on peut dire de lui en tant qu'un être humain qui en a aidé énormément d'autres à vivre, dont moi.
Ermite, apôtre, prophète, moine, prêtre, Dieu, rien n'est assez poncivement religieux pour exprimer, après tout, le magnétisme dont Monk est la bête. Pourtant, Monk est mort. Monk est mort. Monk est mort. Il faut bien se mettre ça dans la tête.
Thelonious Monk, la nique au silence, par Yvon Croisier.
Avec Jacques Ponzio, Laurent de Wilde, Thierry Delcourt et Julien Delifiori. Avec des extraits des films Straight No Chaser de Charlotte Zwerin, Jazz on a Summer's Day de Bernstein, avec des lectures de Marie Richeux et la voix de Julie Gacon. Enfin, avec les musiques de Thelonious Monk, discographie, bibliographie sur le site de France Culture. Archivina, Viviane Lefebvre.
Merci beaucoup, ladies and gentlemen.
Thank you, Thelonious Monk.
Une vie, une œuvre, attachée de production Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à l'écrivain Arthur Adamoff.